Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, l'émission qui vous parle le soir pour vous endormir, qui vous raconte des histoires ou le matin pour vous réveiller. D'ailleurs, ce ne sont pas que des contes à dormir, il y a des contes à réveiller, il y a des blagues, il y a des légendes. Bref, des histoires. En ce moment même, un festival qui s'appelle Alors raconte dans le Tarn-et-Garonne, sans doute vous en entendez parler, des conteurs sont là et vous parle. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une différence assez importante entre lire une histoire et raconter une histoire. Souvent, lorsque je me présente devant des enfants, je leur dis, je vais vous raconter des histoires, ils disent, mais où est le livre? Et ils sont habitués à ce qu'on leur lise des histoires. Alors, on peut dire, oui, bon, ben lire, une fois qu'on a appris par cœur ce qu'il y a sur le livre, on raconte, c'est la même chose. Non, ça n'a rien à voir, parce que les conteurs ne lisent pas, même pas dans leur tête. Ils racontent vraiment exactement comme au bistrot, quelqu'un va vous raconter ce qui lui est arrivé la veille, eh bien, il va l'improviser, il n'a pas, attends, je vais préparer mon texte, après je te raconte ce qui m'est arrivé. Non, on raconte. Et là, il y a une spontanéité, une immédiateté de la chose dite, la parole se libère et c'est quelque chose de particulier, c'est du spectacle vivant, c'est du conte. Lorsqu'on lit, c'est différent. Ce n'est pas pour autant que ça n'a aucune valeur. Par exemple, moi-même qui vous parle à cette antenne et qui vous raconte des histoires, combien de fois j'en lis, parce que je ne peux pas non plus inventer et maîtriser des histoires comme ça que je pourrais lire sans texte. Ça demande beaucoup de travail. Et donc, très souvent, je lis. Et aujourd'hui, je vais vous lire... Et vous comptez donc un conteur qui est très connu, un texte d'un conteur qui est très connu, qui s'appelle Henri Gougaud. L'amour foudre, j'en ai déjà conté pas mal de ces histoires, conte de la folie d'aimer. Henri Gougaud a un style particulier, c'est-à-dire que même lorsqu'il conte devant un public, sans livre, sans rien, on croirait de la chose écrite. Et lorsqu'on lit ces contes, on croirait de la chose dite, voyez. Et il a réussi à un mariage, c'est son style, entre la chose écrite et la chose dite. Donc là, je vais vous lire des contes, mais vous verrez, on dirait qu'ils sont dits. Et j'ai choisi donc des contes d'amour, un conte d'amour et puis un conte de désamour, hein, parce qu'il faut pas non plus être trop, hein, un peu de tout. Et puis si on a le temps, Nasreddin. Donc tout de suite, Zara, une histoire d'Henri Gougaud. Autrefois, fut en Arabie un roi nommé Shams le Paisible. Il était père d'une fille au rire simple et bienfaisant comme la source de la vie, au regard sans cesse espérant, au nom aimé du vent, Zara. Shams, au matin de chaque jour, baisait son front en chantonnant. C'était sa prière de l'aube. Trois bontés chassent les chagrins, disait-il, le vin, mes rosiers et Zara. Que Dieu la garde de tout mal. Et tous rendaient les mêmes grâces autour de lui en cœur joyeux. Elle était belle, certes. Elle était sage aussi. Auprès des savants au front haut que son père Shams fréquentait, elle avait goûté la saveur de cette sorte de savoir qui enivre parfois et parfois fait pleurer de désirs trop poignants. Elle avait appris à distinguer le mot de la parole, le temps de la durée, l'énigme du mystère, les beautés nourricières des subtilités vaines. Enfin, sans le secours de ceux qui savaient tout, même l'art de se taire, elle avait appris à écouter la nuit, le tambour de son cœur, la rumeur de son corps, le chant fragile de son âme. Vint le matin mélancolique, le ciel pourtant était serein, où son père lui prit les mains au bord du lit de son enfance, chassa d'un coup d'œil la nourrice qui venait d'ouvrir les volets et lui dit « Zara, mon aimée, ce soleil sur la courte pointe est le dernier des jours naïfs. Voici pour toi le temps venu d'épouser un prince héritier. Je l'ai choisi, il est puissant, qu'il te donne 20 fils et du bonheur à vivre. Zara sentit son sang lui échauffer les joues. Un instant, elle baissa le front. Lui revinrent soudain ces mots, entendus d'un libraire aveugle qui savait voir les yeux fermés. « Sois la sultane de ta vie, que l'amour seul soit ton palais, ton royaume, ta palmeraie, ton désert et ton océan. » Elle sourit au regard inquiet qui épiait sur son visage le moindre signe de souci. Elle répondit « Hélas, mon père, l'homme que j'aime est loin d'ici, si loin que je ne sais pas où il est. Pourtant, il me viendra un jour, mais j'ignore en quelle saison. Voilà passé le temps d'enfance, j'en ai béni chaque journée. Maintenant, laissez-moi aller. Je dois construire la maison où j'attendrai le bien-aimé, sans lequel ma vie n'est que sable. » Elle se vêtit et s'en alla. Shams souffrit ce qu'un père souffre quand son cœur se défait au vent. Jusqu'au soir, elle marcha par les chemins de sable. Au crépuscule, elle s'arrêta. Elle contempla les horizons. Elle se vit au centre du monde. Elle s'y bâtit une maison, franchit le seuil et s'enferma. Aussitôt, la rumeur envahit la cité. « Savez-vous, bonnes gens, la princesse Zara s'est enfuie au désert. » Elle attend que l'amour lui vienne, enfermée dans une cabane au mur de cailloux et de bois. Qui ne connaissait pas Zara, fille de Shams? Qui ne la savait pas plus belle et désirable que les reines du paradis? Ils accoururent tous, princes, marchands, mendiants, voleurs et philosophes, chacun poussant son ange et traînant son démon. Au premier qui frappa à sa porte fermée, « Qui vient là ?» demanda Zara. Le cœur serré dans sa chemise, l'homme lui répondit « C'est moi ». Alors, il entendit Zara lui murmurer, à l'abri de la porte close, « Ensemble, dans cette maison, toi et moi, ne pouvons pas vivre. Il n'y a pas de place pour deux. Dis-moi ton nom, homme, et 20 ans. » Il obéit. Le nom fut dit et la recluse le broda sur son manteau de laine bleue. Le lendemain, un autre vint. Lui aussi frappa à la porte. « Qui vient là ?» demanda Zara. Comme son frère de la veille, il lança fièrement « C'est moi !» Comme son frère de la veille, il entendit ces mêmes mots. « Ensemble, dans cette maison, toi et moi, ne pouvons pas vivre. Il n'est pas de place pour deux. Dis-moi ton nom, homme, et va-t'en. » Et tandis qu'il s'en retournait, son nom fut lui aussi brodé sur le manteau de laine bleue. Ils vinrent 100, ils vinrent 1000, ils vinrent 10 et 20 années. Chacun, à la question posée, répondit à la porte close « C'est moi ». Hassan, c'est moi, Ali, c'est moi. Tel guerrier, tel derviche, tel coureur de sable ou de vent, cent et cent noms furent brodés sur le manteau de laine bleue. Et les jours et les nuits passèrent, et les printemps et les hivers, jusqu'au jour où fit halte, au seuil de la maison, un errant aux pieds nus. Elle s'appelait Mokhtar. En langue d'Occident, son nom était l'élu. Il n'avait dans ses mains que ses lignes de vie, mais dans ses yeux brillaient tous les trésors du monde. Il ne frappa qu'un coup à la porte fermée. « Qui vient là ?» dit Zara. Mokhtar, droit sur le seuil, demeura silencieux. On entendit le vent caresser le désert. Une deuxième fois, « Qui vient là ?» dit Zara. Sa voix n'était qu'un souffle, un murmure de sable. Mokhtar ne lui répondit pas. Mais Zara le sentit sourire. De l'autre côté de la porte, elle sourit aussi. Ce pencha, approcha sa bouche tremblante d'une fente dans le bois brut. Elle dit encore « Qui vient là ?» Alors Mokhtar, l'élu, dans la brise du seuil, approcha lui aussi la bouche de cette fente dans le bois. « C'est toi-même, » dit-il. Et la porte s'ouvrit. Il entra, s'avança, et que vit-il dans la pénombre ? Zara, vieillie, ridée, courbée dans son manteau de laine bleue où tant d'éphémères passants avaient laissé leurs traces inscrites. Mokhtar vit-il ses yeux fanés, ses cheveux neigeux, sa fatigue ? Un fil au bout d'un nom brodé sur l'épaule prit son regard. Il le tira, défit le nom, et par la porte ensoleillée, il lança ce fil à la brise. Et le fil, à peine d'or, se fit oiseau et s'envola. Il en tira un autre encore, un nom. Encore ce défi, un oiseau, encore s'en fut, un long, un court et un cinquième, et celui d'un guerrier persan et celui d'un caravanier, et miracle. Avec chaque nom effacé sur le manteau bleu, avec chaque fil envolé, chaque cri d'oiseau délivré, une ride disparaissait sur le visage de Zara. Son teint retrouvait son éclat, et ses yeux leur lumière vive. Quand ne fut plus un nom brodé, quand le soleil eut disparu derrière la nuée d'oiseaux qui avait envahi le ciel, Zara était à nouveau jeune et belle, plus ardente encore et rieuse qu'au premier printemps de sa vie. Alors, les deux qui n'étaient qu'un s'en furent droit dans le désert. Nul ici-bas ne les revit. Ils ne laissèrent dans le sable aucune empreinte de leurs pas. Autrefois, vécut un guerrier qui se trouva 5 ans durant pris de passion pour une femme. Elle était subtile, sensible, fraîche et belle comme un printemps. Sauf qu'elle avait dans son œil droit un point blanc, une tache infime, aussi menue qu'un grain de sel. L'homme, d'abord, ne la vit pas. Le temps passa. Hélas, tout passe. Son cœur brûlant se refroidit. Il fronça un jour les sourcils. « Femme, dit-il, viens au soleil que je vois de près ta figure. Tu as une tache dans l'œil. Depuis quand est-elle apparue ?» Elle répondit, la tête basse, « Depuis que tu ne m'aimes plus. » «
un nabo del larguero, cansento un nabo del larguero, de su tetu no magnagueto, se ne tornan del larguero, y el te visibla lu punju, te manca vios, vas un pastu. Tut se cuneis a vostro amino, tut se cuneis a vostro amino, al vestita la carabino. Se cuneis a vostro amino, la calza duro, lu capel, y a pas aquí de pasturel. Hola mi tuno, la cuquino, la mi tuno, daigo, daire, daigo, tembelino, la malino. Hola mi tuno, la cuquino, la mi tuno, daigo, daire, daigo, che te fa peta la mu. Hola mi tuno, la cuquino, la mi tuno. Mas la maniago plarusado, dis que sa maire la sunado. La maniago plarusado, esperanza de mamati, me trubare su leto aisi. Hola mi tuno, la cuquino, la mi tuno, daigo, daire, daigo, tembelino, la malino. Hola mi tuno, la cuquino, la mi tuno, daigo, daire, daigo, che te fa peta la mu. Hola mi tuno, la cuquino, la mi tuno, daigo, daire, daigo.
La femme de Nasreddin voulait un animal de compagnie. Elle le voulait, et elle finit par s'acheter un singe. Nasreddin n'était pas content.
Où est-ce qu'il va manger ?
Ben, juste là où tu manges.
Mais où est-ce qu'il va dormir ?
Dans le même lit que nous.
Avec nous ? Et l'odeur, qu'est-ce que tu en fais ?
Oh, si j'ai pu endurer ça 20 ans, le singe, il pourra aussi.
Compte à rebours, j'ai bien l'impression que c'est fini pour aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, ça reviendra. En général, tous les mercredis, de, on va dire, 12h35 à 13h. C'était Marco, compte à rebours, à la semaine prochaine.